Solid Dugout.
The long third inning. And he hits it high in the air. Left center field and deep. Back to the wall. This one's fair for sure. Big response from David Schneider. And the Blue Jays are on the board.
Quelle histoire, honnêtement. Bon, pour, mettons la table, carte sur table tout de suite, là. Les Jays ont perdu. Perdu 6-3 contre l'Athletics. Mais l'histoire qui retient l'attention, David Schneider, parce que là, on le sait, ils ne jouent pas dans leur stade habituel et ils ne sont pas encore du côté de Vegas. On est dans un stade temporaire. Où est-ce que les poteaux de démarcation à Sacramento sont plus bas?
Et nettement plus bas.
Ouais. Oui. Fait que David Schneider frappe une bombe directement sur la ligne de démarcation, puis honnêtement, à la caméra, impossible de savoir.
Ouais. Il faisait un soleil radieux. C'est pas facile de voir ça dans le bleu du ciel. Une balle. Tu sais, de juger exactement où elle se trouve, c'est vraiment pas facile. Il y avait rien de clair là, au niveau du circuit, s'il était bon ou non.
Mais là, les arbitres ont appelé fausse balle. John Schneider a demandé la reprise. On a maintenu la décision fausse balle, ce qui était quand même à prévoir, parce que quand t'es pas capable d'arriver avec des faits tangibles, ben tu gardes la décision. Mais Hugo, John Schneider, oh là là qu'il n'était pas content.
Ah non, non, écoute, puis on en a parlé un peu là, avant de rentrer en onde, mais la vision du dugout des Blue Jays était probablement meilleure que celle des arbitres, parce que pour demander la révision et ensuite ne pas être autant d'accord avec la décision des arbitres, ça veut dire que c'était clair. Et pourtant, ça ne l'était pas. John Schneider était fumant, mais fumant. Et à Sacramento, qu'est-ce qui est drôle, c'est que une fois que tu te fais expulser, pour sortir du terrain, tu dois marcher tout le champ extérieur pour sortir dans l'enclos des releveurs.
Le walk of shame.
Et là, après ça, après cette dispute-là, si on veut, ben Schneider a continué à faire valoir son point juste à sa sortie et même jusqu'à la clôture, qui pointe le poteau des fausses balles, qui dit « Non, non, elle était bonne, finalement, qui sort. »
On sentait qu'il voulait remplir un peu le temps là, pour être capable, parce que là, il donnait des coups de chest, là.
Ouais, ouais,
il bumpait un peu les officiels, il était pas de bonne humeur.
Non, vraiment
pas. Et finalement, après tout ça, ben là, David Schneider, suite à une fausse balle, se représente à la plaque, et là, c'est l'extrait que vous venez d'entendre, Schneider dit « Ouais, m'en frappe un autre. » Et il frappe le circuit, puis celui-là, il n'y avait aucun doute que celui-là était bon, fait qu'il y a toute une histoire. Malheureusement, c'est dans une défaite. J'ai senti qu'José Berrios était peut-être un peu fatigué. Tu sais, il y avait. Je trouvais que niveau contrôle, c'était pas facile. Il donnait des buts sur balle, mais quand même par beaucoup. Tu sais, pas nécessairement des lancers où est-ce que le frappeur va être invité à soigner. J'ai trouvé que Berrios, ça va lui faire du bien, là, quelques jours de congé supplémentaire.
Ouais, je pense que oui aussi. On se rappelle quand même que ses dernières sorties à José Berrios, c'est quand même du 6, du 7, du 8 manches par moment. Ça fait beaucoup de tirs là, dans le bras. Donc, effectivement, là, la commande était un peu moins là pour lui. Écoute, on l'a vu tout de suite là, avec les circuits qu'il a accordés rapidement là, à Tyler Soderstrom, notamment, où il a essayé de faire un changement de vitesse qui est resté complètement dans le milieu de la zone. Et non, c'est ça. C'est difficile pour un lanceur quand on a une fatigue. On essaie d'aller chercher notre vélocité, parfois on n'est pas capable, même le spot, tu sais, avec l'arbitre, parfois les ondes peuvent être difficiles, on essaie d'ajuster, on essaie d'aller chercher la prise. José Berrios, c'est pas un lanceur de vélocité, mais il est quand même capable d'avoir beaucoup d'élan dans le vide, mais là les lancers marchaient pas.
Moi, ce que je me demande, c'est si les Jays ne pourraient pas y aller avec une rotation de 6 partants. Tu sais, habituellement, on voit l'inverse, on va couper le banc, là, t'arrives en série, tu verras plus jamais 5 partants, mais regardez la rotation des Jays. Max Scherzer, c'est pas vieux. Au contraire, c'est pas jeune. Chris Bassitt aussi. Kevin Gausman n'a pas une saison incroyable.
Non, mais lui aussi, ça commence à vieillir.
T'sais, je pense que ce sont tous des partants qui gagneraient à avoir une journée de congé supplémentaire entre leur départ. Et là, la date limite de transaction s'en vient, c'est dans 2 semaines. Là. J'ai hâte de voir si on va pas aller chercher un partant sans nécessairement en sortir un. Laissez-le, Eric Lauer, dans la rotation. Mais t'es juste une rotation à 6 partants.
Ouais, et si c'est le cas, à un moment donné, quand t'as ta journée de congé, ben peut-être que... Tu skips quelqu'un ou un Lauer, par exemple, ben là, devient ton long man pour un match. T'sais, il en va et te donne 3 manches.
Exact.
T'sais, ça, on voit ça. Puis honnêtement, je pense que les mentalités sont en train de beaucoup évoluer dans le baseball. On remarque de moins en moins de matchs complets. En fait, ça, c'est en voie de disparition.
Garrett Crochet en a eu en fin de semaine.
Il a été absolument brillant. 2 matchs complets dans la même semaine pour les Red Sox.
C'est
Brian Bello, puis Garrett Crochet. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais les sorties de 120 lancés, ça, on voit presque plus ça.
Non.
Quand tu atteins 100 lancés, tu as presque un match exceptionnel dorénavant. On le retire autour de 90 à 100 lancés. Alors ça, ces mentalités-là évoluent. Et je pense que de plus en plus, il y a des équipes qui vont se dire, nous, on va y aller avec 6 partants. On va en perdre un, c'est sûr, par blessure au minimum dans l'année. Donc au moins, on se donne un petit peu de marge de manœuvre. Puis, puis quitte à garder un releveur de moins, parce que là, c'est ça, là, t'as une limite, là, ton banc, là, tu peux pas avoir des joueurs à l'infini. Donc 6 partants, un releveur en moins.
Mais ça reste que si tu fais cette stratégie-là, ben t'as Eric Lauer, comme tu disais, qui peut prendre la butte pour un départ, mais si jamais il est pas là, ben il devient un releveur. Puis il peut aller te chercher quand même. T'as une mauvaise sortie, Gausman, ça va pas, se fait frapper, il est sorti en deuxième. Rentre Lauer, puis donne-lui 3, 4, 5, 6, puis après ça, il n'y a pas de problème. Puis si ça se passe bien pour tout le monde, ben il aura son départ au bout de tout. T'sais. Puis parce qu'un gars comme Scherzer, là, le départ qu'il a eu en fin de semaine, tu le vois qu'il y a encore... Tu sais, il y a une volonté. Il y a encore une rapide qui a du zip, là.
Non, vraiment.
Mais il va-tu avoir encore cette vélocité-là en septembre? Je suis pas sûr. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de prendre soin de toi.
Ben, c'est un jeu d'échecs, tu sais, puis les lanceurs peuvent plus se permettre de faire 17-8 manches avec la vélocité dans laquelle ils lancent. Ça fait trop mal au bras. Et les Blue Jays ont été dans les premières équipes cette année à avoir des comités qui vont faire des parties justement dues à la blessure à Max Scherzer. Mais je regarde la date limite des transactions qui s'en vient dans le baseball majeur, les gars. Il y a un lanceur, moi, qui m'intéresse du côté des Rockies du Colorado. Je sais que c'est pas à l'échelle parce que les Rockies ont vraiment, vraiment une saison catastrophique. Mais le releveur Jake Bird, c'est un releveur qui peut quand même faire long dans une partie. Il a quasiment 30 ans. C'est un droitier. Il lance de côté. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un profil qui peut venir bien balancer avec Eric Lauer si on décide d'aller dans cette direction-là. Et je pense que Bird va avoir quand même beaucoup d'appels pour savoir si ses services sont disponibles.
Ah, mais c'est intéressant. Tu vois, justement, dans les prochains jours, il n'y aura pas baseball. Il y aura match des étoiles, concours de coup de circuit, mais on prendra le temps de regarder les cibles potentielles pour les Blue Jays. Tony, tu veux nous glisser un mot sur les 10 victoires de suite?
Ben, avant ça, je suis tombé en fin de semaine sur une statistique qui m'a un peu renversé. Quand vous parliez de Max Scherzer, il approche la fin de sa carrière, mais c'est la même chose pour son ancien frère d'âme, Justin Verlander, deux qui ont fait la pluie et le beau temps avec les Tigers par le passé.
Mm-hmm.
Ces deux-là, d'ailleurs, on parle du Fenway Park. Je les ai déjà vus un après l'autre dans deux matchs de suite au Fenway.
Aïe, aïe.
Wow. Quand même hop, pareil, là. Tu sais, ces deux-là, Hall of Fame, ils s'en vont au Temple à leur première année d'éligibilité, les deux.
C'est sûr.
Et je les ai vus consécutivement dans une des pires saisons des Red Sox. Ça a été deux victoires de mes Red Sox favoris.
Moi aussi, j'ai déjà vu...
Vous avez battu deux fois.
J'ai vu Justin Verlander. À l'œuvre, jamais vu Scherzer, par contre.
Ouais, impressionnant. Puis, parce que j'ai une stat sur Verlander.
Vas-y.
Il n'a pas de victoire cette
année. C'est ça que j'allais dire. C'est exactement ça que j'allais dire.
Aucune victoire, 7 défaites, une moyenne à 4,70. 42 ans, la fin approche.
Ça aussi, ça sent la fin, oui, exact.
Ouais, la fin approche, effectivement, pour Justin Verlander. Moi, j'ai vu passer quelque chose qui m'a fasciné en fin de semaine. Je sais pas si vous avez vu Byron Buxton. Je pense que ça, c'est samedi.
Oui.
Il a frappé pour le carrousel la journée de sa bobblehead.
Ouais, ça, c'est malade.
Ça, c'est incroyable.
C'est hot, ça. Mmh.
Tout le monde a ta petite figurine là, dans les estrades. Là. Et là, toi, tu réponds avec un carrousel. Puis un vrai carrousel. Là.
Oh, oui.
Tu sais, le simple, il était chanceux parce qu'il frappe directement dans les mains de l'Areco. Mais l'Areco, tu sais, comme attrape la balle par un peu l'équilibre. Et là, finalement, il réussit à battre le relais pour le simple. Et il a conclu ça avec le circuit au champ centre. Carrousel, simple, double, triple et circuit dans la même rencontre. Alors que tout le monde a ta petite bobblehead. Ouais. Chapeau à Byron Buxton.
Ah ouais, j'aime, on s'en souvenir. Hein?
Oui, exact. Byron Buxton, qui semble être maintenant un frappeur de puissance. On va en parler un peu plus tard.
Ouais, venez plus tard dans l'émission.
Ouais. Mais oui, effectivement, là, c'est intéressant. Déjà, je regarde le classement là, de l'Est de l'Américaine, les gars, rapidement. Et il y a, à part les Orioles, on a toutes 50 victoires dans la division.
Ça, c'est rare. Donc, que ça arrive, ça.
Ouais. C'est une division extrêmement forte.
Vous avez peut-être vu en fin de semaine aussi, je l'écoutais ce match-là, Cody Bellinger.
Ouais.
Trois circuits.
Ouais, contre les Cubs.
Il s'en est fait voler un.
Exact.
Il aurait dû en avoir quatre.
Carl Tucker. Ouais. Puis il a fini se faire voler le dernier aussi.
En
hein?
plus.
Ah ouais.
À la fin, là, Tucker, là, il, honnêtement, il tapait peut-être 4 pouces de poignée à balle.
Il était pas loin. Il était pas loin. Mais ça, il s'est fait voler le circuit. Puis le troisième, en fait, c'est tard en fin de match. Pis on n'était pas sûr, là. Puis finalement, ça a été confirmé, là, le troisième coup de circuit.
Ouais.
Il aurait pas à en frapper quatre.
Ah non, il était.
Il a une grosse saison, Bellinger, oui, d'ailleurs, dans le Bronx.
Ben, ça tu prends-tu Bellinger pour la moitié du prix de Soto?
Ah, c'est une très bonne question.
Honnêtement, c'est sûr que c'est facile à dire après, là, mais Bellinger, il n'a rien à enlever à ce taux.
Non, mais donc, c'est long terme.
C'est long terme.
Mais Bellinger, sa valeur a tombé. Là, depuis qu'il a gagné le joueur le plus important de la Série mondiale avec les Dodgers, après ça, ça a été catastrophique. C'est pour ça qu'il y a eu un renouveau avec Chicago. Et là, ben, justement, sa valeur...
Mais ça démontre à quel point qu'il y a un frappeur qui est entouré. Puis évidemment, il tire avantage de la petite clôture dans le champ droit. C'est là, sûr. Mais un frappeur qui est entouré, quand t'es protégé par les Judge, par les Stanton, par les Chisholm, tu sais, à un moment donné, c'est que le lanceur adverse, il faut bien qu'il lance des prises à quelqu'un.
Pas le choix.
Et tu peux pas toujours viser les coins à chaque frappeur. Il y a des frappeurs où est-ce que t'as pas le choix de dire, garde, lui, il faut que je le retire en 2-3 lancers.
C'est Judge que tu vises autour. Mm-hmm. C'est lui le plus dangereux. Exact. Après, t'as pas le choix de challenger d'autres frappeurs.
Si tu brûles 8-9 lancers pour retirer Judge,
c'est ça.
Si t'as la même approche avec toute la formation des Yankees, tu fais pas 3 manches. Là.
Non, non.
Exact.
Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Là. Ça prend des premiers lancers que le frappeur s'élance, t'as cherché des retraits rapides.
Ouais.
Si t'as tout le temps des manches de 22 lancers, ben après 4 manches, t'es dehors. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Des fois, on pense que le baseball est un sport individuel. Parce que c'est homme à homme, un lanceur contre un frappeur, mais ta formation a un impact important là, sur la suite des choses.
Oui, exact. Il faut que tu sois en connaissance de cause aussi, puis c'est un bon point que tu amènes des eaux du fait que justement, si tu sais, puis on sait, les Yankees, là, c'est des frappeurs qui visent le circuit ou rien quasiment. Là. Donc, si tu es capable de tout le temps arriver puis d'affronter les frappeurs, c'est bien. Hey, avant de finir, les gars, juste une petite mention. Comme vous savez, je coach MJ 3A à Montréal pour les Marquis.
Oui.
Et j'ai 3 de mes joueurs qui ont été repêchés dans la Ligue Junior Elite.
Hey!
Donc, salut Zachary Gagnon, Nathan Robert, je connais Dubuc, Nathan et Colin qui sont avec les Orioles de Montréal, Zachary qui s'est fait repêcher avec les Guerriers de Granby. Donc, salut les gars, on revient d'un bon tournoi à Plattsburgh. Là, donc, voilà.
Comment t'es Colin, Nathan et Zachary?
Ouais, Colin Dubuc, Nathan Robert, Zachary Gagnon.
Ah, ben félicitations les boys, puis meilleure chance pour la suite de votre carrière. On va aller à la pause. Qu'est-ce qu'il y a encore là?
Non, ben. Ceux qui regardent sur YouTube, là, regardez là, ma tenue aujourd'hui.
Je t'ai donné l'occasion. Je t'ai dit, veux-tu qu'il dise un mot sur les Red Sox? Puis t'as décidé de parler de Verlander.
Mais non, mais on va parler des Red Sox, prendre le temps de le faire. Vous allez me donner 2 minutes pour parler de mon club. J'arbore la tenue Fenway aujourd'hui. Le vert Yankee Way, Fenway Park, la casquette, le kit.
Il a l'air moins pâle que celui de J.P. Burt.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai. Moi, j'étais sûr que t'allais l'acheter directement après que t'aies vu celui de J.P.
Ça, ça a été acheté au Fenway. Évidemment, lors de mes nombreux voyages à Boston. Quelle séquence, une première depuis 2018 à Boston. Le club le plus hot des majeurs avant la pause du match des étoiles. 10 victoires de suite pour la troupe d'Alex Cora. Joue de la très très bonne balle en fin de semaine. Un balayage à Boston contre les Rays. Et le joueur actuellement de l'heure, c'est Sedan Rafaela, qui connaît là, une saison absolument incroyable, né à Curaçao. Lui, là, il avait pas d'expérience ou presque dans le baseball majeur quand les Red Sox l'ont signé à long terme. Un contrat de 8 ans, on s'est dit, est-ce que c'est trop tôt pour un joueur de son statut? Je pense que ce contrat-là, là, ça va très, très bien vieillir pour les Red Sox. Il est littéralement en feu. 8 circuits à ses 21 derniers matchs. Il transporte les Red Sox sur ses épaules. Et la rotation fait le travail. Alors, en fin de semaine, impressionnant. Crochet, on en parlait. Bayo, hier, a très, très bien lancé. Et si bien que les Red Sox là, ont rejoint les Yankees. C'est juste qu'ils ont 2 matchs de jouer de plus. Donc, on est à toute fin pratique, à égalité avec les Yankees actuellement. Alors, non seulement les Yankees ont baissé de régime, ils ont été dépassés par Toronto. Ils sont en train de l'être par Boston aussi. On n'aurait pas dit ça il y a un mois. Là.
Mais attention, la pause pour venir jouer les tours à bien du monde.
C'est sûr.
10 victoires de suite, là, ça peut tout s'arrêter, ce momentum-là, à cause de la pause. Exact. Puis même chose pour les Yankees, ils peuvent se ressaisir au retour. Oui. Moi, je te le dis, si un jour je deviens commissaire, je serais surpris. La première affaire que je fais, j'abolis les matchs des étoiles. C'est pourri. C'est pas intéressant. Moi, j'aime pas ça.
Mais redonne une valeur, en fait.
Au baseball, là, c'était malade quand il y avait un enjeu. Là.
Mais oui,
ça, c'était incroyable.
À domicile pour la Série mondiale, c'est bon. Là.
Ouais, mais
je
comprends
pas pourquoi ils ont enlevé ça.
Ils ont enlevé ça l'année des Indians là, parce que, écoute, il y avait tellement eu une saison dominante. Puis finalement, ben, en 2016, c'est mort et bonne.
Mais Cubs.
Cubs Indians.
C'est ça. Les Cubs avaient eu l'avantage du terrain.
Il y avait eu une saison incroyable pour les Indians. Puis je pense que les Cubs commençaient à domicile. Mais tu sais, part of the game.
Ah oui, exactement.
Je pense pas commencer à domicile parce que je lisais d'ailleurs la bio de Joe Maddon. J'étais en train de lire ça, l'ancien gérant des Cubs.
Des Rays, des Angels.
Puis ça s'était terminé à Cleveland, cette série-là, dans un match numéro 7.
Ouais.
Fait que Cleveland avait l'avantage du terrain.
Les Cubs perdaient 3-1 dans cette série mondiale-là. Ils sont revenus de l'arrière.
C'est ça, ouais, pour
c'est
gagner.
C'est le circuit Santa Maria de...
Roger Davis. Sur Aroldis Chapman.
Puis là, il s'est mis à pleuvoir. Ils sont rentrés dans la brise, c'était égalité. Ils sont revenus, puis les Cubs ont apporté par la suite.
Ben Zobrist avait frappé un coup sûr. Exact.
Il y a eu un meeting dans le milieu du vestiaire, à huis clos, juste les joueurs. Ouais. Puis finalement, ben, ils sont allés chercher ça.
Ouais.
L'équipe la plus jeune de l'histoire des majeurs a gagné une série mondiale.
C'est vrai. Et là, je veux pas me tromper, mais je pense que Ben Zobrist avait gagné 2 MVP de série mondiale d'affilée. Avec les Royals en 2015, puis avec les Cubs en 2016.
Je pense que t'as raison.
Ouais.
Ben, en tout cas, ça s'est bel et bien terminé en 2016, la dernière fois que le All-Star Game a dicté l'avantage du terrain.
Oh, ouais, c'est
depuis 2017 que maintenant, c'est l'équipe qui a la meilleure fiche qui reçoit.
Bon,
en tout cas,
je sais pas si ça a eu un lien vraiment avec ce qu'on avait vu, mais c'était ça. On en parlait depuis déjà quelques années d'abolir ça. Moi, je pense que c'était une bonne chose. Ça créait un enjeu pour le match.
Ça démarquait le match des étoiles.
Oui.
Ça faisait, puis honnêtement, le baseball est le seul sport qui peut le faire. Parce que tu veux pas au hockey que les gars commencent à se plaquer, là.
Non.
Tu veux pas ça.
Puis le baseball, tu sais, naturellement, le match se joue de la même façon lors d'un match des étoiles qu'un match normal. C'est là la particularité qui, pour moi, devrait donner un certain avantage au match des étoiles, parce que le baseball, c'est en phase arrêtée. Fondamentalement, t'envoies une balle puis t'as le frappeur qui frappe. Bon, y a pas 50 façons de jouer du baseball. Du hockey, tu peux arrêter de frapper. On s'entend dessus que c'est pas du tout la même game.
Pantoute.
Non, exact.
Ça, c'est ça.
Je rectifie, c'est Salvador Perez en 2015. Donc,
Faut vraiment aller à la pause parce qu'on est vraiment en retard. On s'en parle dans deux minutes.